Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h42, dégressivité des allocations des salariés les mieux payés, une cotisation plus longue pour être indemnisé, un nouveau calcul du salaire de référence, un bonus malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. Le 18 juin dernier, Édouard Philippe a présenté les mesures de la réforme de l'assurance chômage. La réforme est vivement critiquée par les syndicats qui ont appelé hier et aujourd'hui à se rassembler pour protester contre ces mesures considérées comme injuste. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Cahuc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po. Un mot tout d'abord sur ces différentes mesures et sur votre analyse à leur sujet, Pierre Cahuc.
Oui, je crois qu'il faut d'abord mettre ces mesures dans le contexte. L'assurance chômage a un déficit important depuis une dizaine d'années, avec une dette cumulée qui avoisine aujourd'hui les 37 milliards d'euros. Donc, dans ce contexte, il était important de remettre sur pied un système qui finalement dérive financièrement, puisqu'il n'est pas prévu d'amélioration significative du déficit à l'horizon de plusieurs années. C'est prévu avec des anticipations extrêmement optimistes sur l'évolution du contexte international. Donc, dans ce contexte-là, il fallait trouver de nouvelles règles pour améliorer la situation des demandeurs d'emploi et améliorer le retour à l'emploi. C'est ce qu'a visé le gouvernement avec un ensemble. Alors, c'est une mesure. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une réforme systémique. Le point très important, je pense, c'est que on modifie la manière dont on calcule le revenu des demandeurs d'emploi, qui va dépendre du revenu moyen passé et non plus du salaire gagné uniquement pendant les jours que l'on travaillait, ce qui entraînait des dysfonctionnements très importants de l'assurance chômage.
C'est l'un ou l'autre des choix qui a été fait par le gouvernement. S'agit-il donc de combler ce déficit qui est aujourd'hui, dites-vous, trop important, ou s'agit-il d'opérer un meilleur retour à l'emploi, d'organiser l'assurance chômage pour qu'elle incite les chômeurs, si la question est là d'ailleurs, parce qu'on peut aussi se poser cette question, si la question consiste à trouver une assurance chômage qui soit plus efficace pour permettre un retour à l'emploi, Pierre Cahuc.
Je pense que c'est les deux à la fois. Le but ici, c'est d'essayer de changer de philosophie et de s'appuyer sur un système qui donne plus de possibilités aux demandeurs d'emploi de retrouver un emploi. Donc, avec les mesures que vous avez citées, il y a aussi un ensemble de mesures qui visent à renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour les personnes qui viennent de perdre leur emploi, mais aussi pour les personnes qui cumulent revenus d'activité et indemnité chômage, puisqu'ils sont très nombreux. Vous savez que la moitié des chômeurs indemnisés cumulent revenus d'activité et indemnité chômage, à peu près la moitié. En 45%. Donc ces personnes sont dans une situation dans laquelle ils cumulent des emplois précaires pendant des années et les dispositifs qui sont mis en place cherchent à leur donner la possibilité d'avoir des formations pour les ramener vers un emploi stable. Donc ça s'articule aussi avec un ensemble de mesures, le plan d'investissement dans les compétences, 15 milliards d'euros, qui aussi donne la possibilité aux demandeurs d'emploi d'avoir des formations qui sont plus adaptées. Donc il y a vraiment un changement de logique qui consiste à essayer d'améliorer la situation des demandeurs d'emploi, mais en leur permettant d'aller vers l'emploi.
Bon, alors on s'en doute, tout ceci n'est absolument pas consensuel, tout est discuté et donne lieu à des polémiques. Alors, première polémique, cette dette de l'UNEDIC, vous dites, elle est trop importante, elle s'est accrue de 3,4 milliards d'euros en 2017, c'est donc le niveau du déficit annuel, c'est-à-dire à peu près 10% en fait en plus. C'est une somme qui peut être perçue comme modeste et surtout dans les causes de ce déficit, on dit que finalement l'UNEDIC n'est pas là uniquement, hélas, pour financer les allocations au chômage, mais qu'elle est aussi là pour financer, par exemple, Pôle emploi, et que ça n'est pas son rôle. Autrement dit, si celle-ci doit financer différentes choses, comme Pôle emploi coûte un peu moins de 4 milliards d'euros, c'est normal que le système soit en déséquilibre, Pierre Cahuc.
Oui, effectivement, l'UNEDIC donne 10% de ses recettes pour financer le service public de l'emploi, qui gère le versement des indemnités chômage, ce qui coûte cher. 10% sur ses frais de gestion, ce sont des montants assez standards, et aussi tout l'accompagnement. Alors, il est vrai que Pôle emploi accompagne aussi des personnes qui ne sont pas allocataires de l'UNEDIC, puisque vous savez qu'à peu près la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés par l'UNEDIC, puisqu'ils ne sont pas éligibles à l'indemnité chômage. Donc, Mais ceci dit, le fait de les accompagner leur permet ensuite de trouver un emploi, de cotiser, puisque quand on cotise, ça donne des ressources pour l'UNEDIC. Donc, dans l'ensemble, tous les services qui sont donnés par Pôle emploi bénéficient aussi à l'UNEDIC, et il est tout à fait logique d'articuler les services les services publics de l'emploi et l'assurance chômage. Ça pose un problème plus général, qui est celui de la gouvernance, finalement, de l'UNEDIC, du service public de l'emploi. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a des institutions qui sont gouvernées chacune de leur côté, et il est aujourd'hui très important d'essayer d'aller de l'avant en améliorant la gouvernance d'ensemble de ce système.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire également, Pierre Cahut, que c'est par exemple l'argument de la CFE-CGC, qu'il y a effectivement 4 milliards d'euros qui vont à Pôle emploi, et c'est un service public, et c'est normal donc qu'il soit financé par le public. S'il n'y avait pas ces 4 milliards d'euros, le système serait à l'équilibre. Autrement dit, conclusion, il n'y a rien à changer dans ce système-là.
Non, parce que si l'UNEDIC devait gérer le prélèvement des cotisations, le versement des indemnités chômage, le suivi des demandeurs d'emploi aussi, ces frais de gestion s'élèveraient à peu près à cet ordre-là, de l'ordre de 10%, peut-être plus, peut-être un peu moins. Mais donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un faux procès de dire que ce versement de l'UNEDIC à Pôle emploi ne devrait pas avoir lieu.
Alors maintenant qu'on a mis de côté cette question du coût du service public, il y a le débat qui est, je dirais, quand même le débat principal, qui consiste à savoir s'il faut inciter les chômeurs à retrouver un emploi. Alors ça, c'est un grand débat au sein de votre science, la science économique, Pierre Cahut. Pourquoi y aurait-il des mécanismes d'indemnisation du chômage qui permettraient, selon vous, d'inciter les chômeurs à retrouver un emploi, ou la preuve a-t-elle été faite de l'efficacité de ce type de mesure?
Alors bon, deux points. Je dirais que au sein des économistes, c'est pas un débat. Énormément de travaux empiriques montrent que la durée du chômage est influencé par le niveau de l'allocation chômage. Sur ça, il n'y a pas de débat. Si vous voulez, peut-être des débats marginaux, comme au sein des spécialistes du climat, il y a quelques climato-sceptiques, mais au sein de la profession des économistes...
Je ne suis pas certain qu'Anedou, qui va vous rejoindre dans instants, soit d'accord avec vous.
Je ne veux pas être, si vous voulez, trop critique, mais on a invité des climato-sceptiques sur dans toutes les antennes pendant des années. Donc,
la comparaison.
Sur ce sujet, je pense qu'il n'y a pas de débat, et comme dans tout système assurantiel, il y a des incitations, et les personnes réagissent aux incitations, d'accord. Donc ça ne veut pas dire.
Et ça, c'est une conception qui est une conception extrêmement mécanique des choses, c'est-à-dire que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets sur les êtres humains, parce que ce sont des êtres humains et pas des pierres. Et par conséquent, une incitation de retour à l'emploi fonctionne si, par exemple, les individus ont une possibilité effective de retourner vers l'emploi.
Bien sûr. Alors, bon, premier point, il y a une grande diversité des situations. Il y a des personnes qui ont cette possibilité, il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité. Donc, c'est un sujet très important pour l'assurance chômage. Et l'enjeu de l'assurance chômage, justement, c'est d'essayer de trouver des systèmes qui incitent les personnes ou qui aident les personnes qui ont des possibilités à retrouver un emploi, et qui mettent effectivement plus de ressources sur les personnes qui ont moins de possibilités, en les aidant, en les formant, voire en leur donnant des revenus ensuite de subsistance les plus élevés possibles. Donc c'est ça, si vous voulez, l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de dire les chômeurs trichent, les chômeurs sont paresseux. L'enjeu de tous les travaux empiriques sur le sujet, faits par les économistes, pas du tout. L'enjeu, c'est d'arriver à trouver un système assurantiel qui assure au mieux, c'est-à-dire qui aide au mieux les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi, et qui donne des incitations aux personnes qui ont la possibilité de trouver un emploi qui soit suffisamment efficace. Donc l'enjeu est vraiment là, et ce que vous dites, c'est que le résultat est mécanique, mais ce qu'on regarde effectivement en général, c'est la moyenne, et comment cette moyenne de la sensibilité de la durée d'emploi au chômage varie selon le type de population. Ce dont on se rend compte, par exemple, c'est que pour les cadres, effectivement, la durée du chômage est plus sensible au niveau de l'allocation chômage, parce que les cadres ont plus de possibilités pour retrouver un emploi. Ce qui est très logique, très intuitif. En revanche, les personnes peu qualifiées au niveau du salaire minimum ont beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi. C'est pour ça que, pour cette population, les économistes préconisent de donner plus de formation, des revenus plus élevés, et aussi donner sur une période potentiellement plus longue.
Si vous voulez, on peut contester le type de lien mécanique qui est fait entre la diminution des allocations chômage ou leur versement sur une période plus courte et le taux de chômage, c'est tout simplement du fait de la structure du chômage français. Il y a eu récemment une étude du CEPREMAP, un centre d'études d'économie, qui explique que la destruction des emplois de la classe moyenne s'est accélérée depuis la crise et donc on a une structure du chômage français qui est particulière, qui fait qu'il y a des bas salaires, des hauts salaires et puis une classe moyenne qui ne trouve plus, qui trouve moins parce que Dieu merci, il y a des personnes de la classe moyenne qui trouvent à s'employer en France, mais ce mécanisme-là, il pourrait montrer que on a véritablement des trappes de chômage, quels que soient les mécanismes qui sont employés. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Cahuc?
Alors, ce phénomène qu'on appelle de polarisation entre effectivement un creusement des rémunérations des classes moyennes, on le retrouve dans tous les pays à plus ou moins grande échelle. Alors, sur le chômage, il faut quand même regarder un peu autour de nous. La France a un taux de chômage à 8-6%. Autour de nous, les taux de chômage dans les pays qui fonctionnent bien sont extrêmement faibles, 3-4%. Dans la moyenne des pays de l'OCDE, le chômage est en dessous de 6%. Donc on est dans une période dans laquelle, finalement, de manière assez paradoxale, eu égard au discours qu'on entend sur la robotisation, la disparition des emplois, dans laquelle le chômage est extrêmement faible. Et on se rend compte que les pays qui ont fait des réformes ont vu leur chômage baisser de manière très importante. Et c'est ce qu'essaye de viser ce gouvernement, un ensemble de réformes qui a une certaine cohérence pour essayer d'améliorer la formation des demandeurs, des chômeurs, des personnes qui ont du mal à retrouver un emploi, donner la possibilité aux personnes qui sont en emploi, puisque dans cette réforme aussi, il y a la possibilité pour les démissionnaires tous les 5 ans d'avoir finalement 2 ans d'allocation pour pouvoir se reformer, ce qui est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire au sein des pays européens. Ça n'existe nulle part. Donc on essaie de constituer un système qui permette de rebondir, d'avoir de nouveaux projets professionnels pour favoriser l'emploi. Et créer l'emploi, ça crée de l'emploi. Quand des personnes ont des emplois, ça génère des revenus, ça permet de créer d'autres emplois.
Le taux de chômage, il est perçu comme élevé en France, il est perçu comme bas dans d'autres pays, mais là aussi, il faut voir quelle est la part de population active, puisque le taux de chômage, il se calcule par rapport à la population active. Or, on sait, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens découragés qui ne se considèrent plus comme chômeurs, qui ne se considèrent plus comme étant à la recherche d'emploi. Ils sont moins nombreux en France, Pierre Cahuc. Est-ce que, tout simplement, ça n'explique pas la difficulté qu'il y a de comparer le taux de chômage français et le taux de chômage américain?
Donc, globalement, il y a une relation très très marquée entre le taux d'activité, le taux d'emploi et le chômage. Une relation inverse. Les pays qui ont des taux de chômage faibles ont aussi des taux d'activité plus élevés. Il y a plus d'emplois, simplement. Les personnes sont plus en emploi. Alors, effectivement, aux États-Unis, il y a eu une évolution qui en grande partie liée au fait qu'il y a un vieillissement démographique aux États-Unis et les personnes qui sont plus âgées en moyenne ont des taux d'activité qui sont plus faibles et qui commencent avant l'âge de la retraite en fait. Donc il y a un ensemble de phénomènes de ce type-là qui sont surtout de nature démographique. Il y a aussi des phénomènes qu'on comprend pas très bien qui expliquent le fait qu'il y a un tassement des taux d'activité aux États-Unis. Mais globalement, les pays autour de nous, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Pays-Bas, les pays scandinaves qui ont des taux de chômage beaucoup plus faibles ont des taux d'activité beaucoup beaucoup plus élevés que nous et donc un nombre d'heures travaillées par habitant qui est beaucoup plus élevé, donc moins de problèmes budgétaire, un PIB par habitant qui a tendance à croître plus vite que nous.
Mais aujourd'hui, le taux de chômage en France, il est environ du 8,5%. Le pari d'Emmanuel Macron est de le ramener à 7%. On considère que le chômage, le niveau de chômage structurel en deçà duquel donc on ne peut pas descendre en France est de 7%. Certains économistes le pensent, c'est votre cas, Pierre Cahuc?
Alors, taux de chômage structurel, la manière dont on le calcule en général, on calcule la moyenne des taux de chômage passés. Donc si on se situe dans cette perspective, on peut même penser qu'il est plus haut, puisqu'il y a 40 ans qu'on n'est pas passé en dessous de 7% d'accord, de chômage. Donc ce serait une vision assez optimiste de penser que dans l'état actuel du fonctionnement du marché du travail, on puisse atteindre rapidement les 7%. Donc il faut effectivement améliorer le fonctionnement du marché du travail. Je pense que cette réforme essaye d'y participer avec des aspects très positifs, des aspects qui sont peut-être moins positif, mais dans l'état actuel, il est douteux que l'on puisse atteindre rapidement des institutions du fonctionnement du marché du travail, qu'on puisse atteindre rapidement les 7% de chômage, d'autant que
vous êtes en train de dire que ce pari-là ne peut pas être gagné.
Je dis pas qu'il peut pas être gagné, je dis que il faut continuer à mettre en place des réformes qui soient cohérentes, qui aient du sens, et il faut aussi avoir de la chance, parce que finalement l'environnement international aujourd'hui est très instable, et aujourd'hui le chômage baisse dans tous les pays, pratiquement tout autour de nous. Il baisse en France aussi, comme dans les pays avoisinants, peut-être un peu moins vite en France d'ailleurs, ce qui est un peu inquiétant, mais dès lors que la conjoncture va vraiment se détériorer, et ça peut arriver. Vous savez que les États-Unis sont dans une période de croissance depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Donc on se pose la question sur la longévité de ce cycle. Lorsque les États-Unis vont ralentir, il y a de fortes chances que les pays aussi de l'OCDE ralentissent. Et donc là, le chômage risque de réaugmenter.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi ce taux de chômage structurel de 7% qui est plus élevé, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec ce taux-là, est-ce que ça ne signifie pas que la France est dans sa structure de population et de par son économie promise, condamnée à un niveau de chômage plus élevé que d'autres pays, Pierre Cahuc?
Non, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Les pays qui ont des taux de chômage élevés en Europe, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ont des caractéristiques du marché du travail communes sur la formation des salaires, la protection de l'emploi, moins le système d'assurance chômage, parce que l'assurance chômage est moins développée, notamment en Italie, encore qu'il y a eu des réformes récentes. Mais il y a une corrélation très très marquée entre les caractéristiques institutionnelles, la manière dont est organisé le fonctionnement du travail, du marché du travail et les performances du marché du travail. Et sur ce point, la France a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, un lien à faire entre le niveau élevé du chômage français et les lacunes de notre système éducatif qui mériterait, par exemple, plus d'investissement de la part de l'État? Autrement dit, ce déficit qu'on a dans l'UNEDIC, un déficit de près de 4 milliards d'euros par an, est-ce qu'il ne provient pas de la somme qui n'est pas versé au système éducatif, Pierre Cahuc?
Bon, il est clair que le système éducatif en France est améliorable, on le sait. Beaucoup de personnes qui achèvent leurs études sans diplôme.
Très mauvais résultat sur la manière, effectivement, dont les individus sortent du système scolaire.
Oui, alors donc le problème pour ces personnes, c'est que effectivement leur productivité, leur capacité à générer beaucoup de production sur le marché du travail est faible, et il y a des barrières pour eux sur le marché du travail, pour les jeunes. Hein, c'est donc peu diplômés, malheureusement un coût du travail qui est trop élevé pour eux, pour la plupart d'entre eux, donc la nécessité effectivement de les reformer. Donc là aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner une deuxième chance, de développer des programmes pour donner une deuxième chance et leur permettre de s'insérer sur le marché du travail. Mais effectivement, l'état du système éducatif en France peut être amélioré, et le gouvernement y travaille aussi, il me semble.
Pierre Cahuc, économiste, professeur à Sciences Po, vous êtes notamment co-auteur avec Stéphane Carcio d'Améliorer l'assurance chômage, paru aux presses de Sciences Po. Vous serez rejoint dans quelques instants par Anne Edou, elle est maîtresse de conférence au CNAM, membre des économistes atterrés et chercheuse au CNRS. Et nous évoquons cette réforme de l'assurance chômage, une réforme qui suscite des polémiques, des protestations de la part de certains syndicats. Nous avons entendu le point de vue de Pierre Cahuc, économiste, professeur à Sciences Po. Je dirais que vous n'êtes pas complètement hostile à cette réforme, pour utiliser un euphémisme. Nous recevons Anne Edou. Bonjour, vous êtes maîtresse de conférence au CNAM, membre des économistes atterrés. Alors le tableau, peut-être le contesterez-vous, mais disons que dans un premier temps, on a un déficit de l'UNEDIC qui est d'un peu moins de 40 milliards d'euros. Et puis de l'autre côté, on a un taux de chômage élevé en France, un peu plus de 8,5%, d'où une tentative de la part du gouvernement de réformer ce système d'assurance chômage pour à la fois réduire la dette et permettre une meilleure efficacité du retour à l'emploi, un meilleur retour à l'emploi. Votre point de vue, Anne Edou, sur cette réforme?
Alors, je dirais déjà que le déficit de l'UNEDIC, il est ancien, hein, il vient pas de surgir. La question, c'est comment est-ce qu'on règle ce problème, hein. Bien sûr, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est celle qui se met en place, c'est-à-dire réduire les droits des chômeurs. Mais il y a d'autres possibilités qui sont augmenter les ressources du système, hein. Donc auparavant, c'était les cotisations, ça l'est de moins en moins, hein, c'est de plus en plus, il y a une reprise en main du financement par l'État. Et donc, c'est une chose qui aurait pu s'envisager dans un contexte de chômage élevé. C'est pas le choix qui a été fait. Et là, on se trouve en présence d'une réforme qui mise pour faire des économies essentiellement et même uniquement sur la réduction des droits des chômeurs. De ce point de vue-là, on peut d'ailleurs se poser la question de l'équilibre de la politique du gouvernement qui affirmait qu'il allait aller vers davantage de justice sociale et qui finalement prend des décisions qui consistent à réduire les droits des chômeurs.
Alors sur le premier point, sur le déficit de l'assurance chômage, sur les 40 milliards de déficit accumulés.
Le
déficit, il est de 4 milliards environ par an. Sur ces 40 milliards, qu'est-ce que vous préconiseriez pour le diminuer, Anedou ?
Eh bien, que l'État vienne au secours du système. Hein. C'est-à-dire je pense qu'il faut revenir sur l'histoire.
D'accord, mais comment, en augmentant ?
Je termine. Il faut revenir sur l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire longue de l'UNEDIC, ça a été l'incapacité, depuis longtemps, à revaloriser suffisamment les cotisations pour permettre de financer le système. Et donc, on est sur une histoire longue où on réduit les cotisations payées par les employeurs, les cotisations aujourd'hui payées par les salariés, avec une CSG, un transfert vers la CSG qui ne suffit pas à réalimenter le système. Et donc, sur le temps long, on a effectivement un problème de financement. Et malgré tout, on a quand même réduit considérablement les droits des chômeurs sur le temps long. Et aujourd'hui, plus de 30% des chômeurs sont pauvres. Hein. Donc voilà, il faut aussi rétablir cette histoire. Donc il y a deux possibilités. Ou bien on continue à éroder les droits des chômeurs sans lutter contre le chômage, hein, parce que finalement on a une politique qui depuis longtemps n'a pas du tout réussi à lutter le chômage, ou bien on s'attaque d'un côté au déficit de l'UNEDIC et de l'autre on met en place des véritables politiques de lutte contre le chômage.
Pierre Cahuc, sur le premier point, sur l'augmentation des cotisations, votre point de vue ?
Bon, les cotisations n'ont pas baissé, hein, puisque les cotisations patronales sont de 4 points. Elles ont augmenté en convention 2017, elles sont passées à 4,05. Les cotisations salariées ont été supprimées 1er octobre 2019, mais il y a un remboursement de l'État à l'UNEDIC. Donc le volume des cotisations, enfin des recettes, n'a pas diminué. Il est l'ordre de 38 milliards d'euros. Il faut voir que ça correspond à peu près à un mois de salaire net. Si on somme l'ensemble des cotisations pour un salaire, c'est-à-dire que chaque salarié du secteur privé cotise pratiquement l'équivalent de un mois de salaire net. Ce qui fait que finalement, on a un système qui est relativement à d'autres pays, aux autres pays européens, qui est extrêmement généreux, entre guillemets. Si je compare avec les pays qui sont toujours nos points de comparaison, les pays scandinaves, par exemple, on passe effectivement une situation dans laquelle le gouvernement va accroître la durée nécessaire de cotisation pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. On va passer de 4 mois à 6 mois, ce qui est une des critiques essentielles, en fait, de l'ensemble des syndicats. Qu'est-ce qui se passe dans les pays scandinaves ? Les pays scandinaves, je prends le Danemark. En France, il faut avoir pour l'instant cotisé 4 mois dans les 28 derniers mois, on va passer à 6 mois dans les 24 derniers mois. Danemark, il faut avoir cotisé 12 mois dans les 3 dernières années. Suède, il faut avoir cotisé 6 mois dans les 12 derniers mois. Pays-Bas, il faut avoir cotisé 6 mois dans les 9 derniers mois. Donc, si je regarde l'ensemble des pays scandinaves qui sont les plus généreux, dans le nouveau système, le système français va être toujours plus généreux et beaucoup plus.
Anedou, votre point de vue, puisque donc là, sur le deuxième volet, et autrement dit sur une réforme de l'indemnisation chômage qui permettrait un meilleur retour vers l'emploi, votre point de vue ?
Alors, l'assurance chômage n'est pas un outil pertinent pour organiser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Hein, ça, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps, c'est-à-dire que depuis toujours, pour réformer l'assurance chômage, enfin depuis les années 80-90, on a mis en avant le fait que les chômeurs seraient découragés de travailler par des indemnités trop généreuses et qu'il fallait encourager le retour à l'emploi en récompensant d'une certaine manière, ce retour à l'emploi. Donc, via le système qu'on appelle des activités réduites, qui permet de combiner un revenu d'activité avec une indemnité de chômage. Les évaluations ont montré que ce système n'accroissait pas le retour à l'emploi. Et là, je pense que Pierre Cahuc va être d'accord avec moi, et que au contraire, on a institutionnalisé des situations précaires. Donc, on a un système qui, d'une certaine manière, soutient une précarité des chômeurs. Et aujourd'hui, ce qu'entend faire la réforme, c'est remettre en cause ce système, mais sans remettre en cause la précarité. Donc finalement, on va appauvrir ces chômeurs qui sont les plus précaires, qui sont en activité réduite, mais sans s'attaquer du tout aux racines de la précarité, c'est-à-dire à la montée des CDD.
Ben pourtant, vous avez un système de bonus-malus qui est prévu dans cette réforme et qui est censé sanctionner les entreprises qui ont le plus recours à des contrats courts. Hein,
absolument. Alors, c'est un gadget. C'est-à-dire qu'il faut voir comment il est construit. C'est à la fois un gadget et une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il ne va concerner que quelques secteurs. D'abord, l'assurance chômage n'entend pas réaliser des économies sur ce bonus-malus. C'est une forme de redistribution entre les entreprises du secteur. Et donc, on va calculer la moyenne de recours au contrat court dans ces secteurs concernés. Et les entreprises qui dépassent la moyenne, elles paieront une surcotisation. Celles qui sont en dessous auront un bonus. Bon. Je pense qu'on ne peut pas sérieusement compter là-dessus pour réduire le taux de recours au CDT. On a déjà eu une mesure qui pénalisait le recours au contrat court en 2013 et qui n'a en rien infléchi la montée des CDD de moins d'un mois, qui est restée sur une pente très haute. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas compter sur cette réforme pour réduire les emplois précaires. Il y a le droit du travail pour ça.
Alors deux points, moi, je suis tout à fait d'accord sur le bonus-malus. Le bonus-malus, effectivement, va concerner 7 secteurs avec une variation du taux de cotisation de plus, qui est donc, comme je l'ai dit, de 4,05%. On va pouvoir passer à 5,05% si, pour les entreprises qui vont être le plus pénalisées, 3,05% pour celles qui sont le moins. Donc toute petite variation. 7 secteurs seulement, donc on est effectivement sur quelque chose qui est de l'ordre du gadget. C'est les conséquences d'un lobbying extrêmement fort du patronat qui est poussé par certains secteurs qui utilisent de manière très importante ces emplois très courts et qui bénéficient d'une certaine manière d'une subvention, puisque les salariés sont toujours à disposition, puisque en cumulant indemnité chômage et revenu d'activité, finalement, lorsqu'ils ne travaillent pas, ils perçoivent l'assurance chômage, ils sont toujours à la disposition des employeurs. Ainsi, par exemple, 70% des intérimaires sont inscrits à Pôle emploi et cumulent indemnité chômage et revenu d'activité. Et donc, ces secteurs qui bénéficient de cette main-d'œuvre à disposition, effectivement, poussent énormément pour conserver ce système et pour faire barrière à toute réforme importante. Donc là, je suis tout à fait d'accord, la réforme du bonus-malus est tout à fait limitée. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une baisse des emplois précaires. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assurance chômage, aujourd'hui, a mis en place un système complètement dysfonctionnel où, lorsque on s'inscrit au chômage, eh bien, on peut augmenter son revenu, puisque jusqu'à présent, quelqu'un qui travaillait 15 jours par mois à plein temps au niveau du SMIC, il avait un demi-SMIC tous les mois, puis quand il s'inscrivait au chômage, il avait plus de 80% du SMIC à plein temps. Voilà. Et ensuite, en continuant à travailler à peu près à mi-temps, il avait 90% du SMIC. Donc on voit que l'assurance chômage, c'était devenu quelque chose qui permettait de compléter son revenu de manière permanente. Et c'est ça qui génère énormément d'emplois courts. Le but du gouvernement, c'est d'arriver à un système où on lisse son revenu en arrivant à l'assurance chômage et aider les personnes qui sont dans des situations précaires où elles cumulent les CDD pendant des années à trouver des emplois stables avec des politiques de formation et autres. Et donc, je pense effectivement que cette réforme va changer fondamentalement la physionomie du marché du travail en France.
Bon, alors là, Anne-Edou, oui. Vous n'êtes pas d'accord.
Oui, alors là, on est dans les éléments de langage du gouvernement qui relèvent de la fake news. C'est-à-dire que le gouvernement a commandé une étude à l'UNEDIC pour savoir si certains mois, des demandeurs d'emploi gagnaient plus avec l'allocation chômage qu'en travaillant. Et donc, ça a consisté à construire un nouvel indicateur farfelu qui n'a rien à voir avec la manière dont l'assurance chômage est calculée, à savoir non plus le salaire journalier de référence, mais un salaire mensuel de référence. Et donc là, on aboutit à un calcul d'un potentiel de 20% de demandeurs d'emploi qui gagneraient plus avec l'assurance chômage qu'en travaillant. Alors d'abord, je pense qu'il faut tout de suite rétablir une chose, c'est qu'on ne gagne jamais plus avec l'assurance chômage qu'en travaillant. Hein. L'assurance chômage, au mieux, au niveau du SMIC, le taux de remplacement du salaire, il est de
79%. Le taux de remplacement, c'est ce que le chômeur touche.
J'allais le dire,
touche.
Oui.
Allez-y,
donc
allez-y,
le taux de remplacement du salaire au SMIC, il est de 79%. Ça veut dire que quand on est à l'assurance chômage, on ne gagne que 79% d'un SMIC et pas 100%. Et donc, chaque fois qu'on travaille, chaque jour travaillé, on gagne 100% du SMIC. On a toujours intérêt à travailler quand on est indemnisé au chômage et jamais intérêt à ne rien faire. L'autre chose que fait croire cet élément de langage, c'est que les chômeurs choisiraient de travailler en CDD ou de travailler un jour sur deux. Ça n'est pas le cas, bien sûr. Hein. Ceux qui travaillent en CDD, ceux qui travaillent en intérim, les intermittents, etc., ils ne choisissent pas de ne pas travailler tout le mois. Hein. On leur propose un contrat de travail qu'ils acceptent, parfois contraints et forcés, parce que c'est considéré comme une offre raisonnable d'emploi. Sans ça, ils se verraient suspendre leurs indemnités de chômage. Donc ce n'est pas les demandeurs d'emploi qui choisissent de travailler en emploi court, ce sont les employeurs qui proposent ou non ces emplois.
Pierre Cahuc, alors, et tout cela vient d'une polémique suscitée par une déclaration du Premier ministre qui expliquait qu'il y avait un chômeur sur cinq qui percevait plus d'allocations au chômage que s'il était en emploi. Anne Hédou vient de dire qu'il s'agissait d'une fake news. Qu'en pensez-vous ?
Non, bon, premièrement, je pense que c'est un sujet extrêmement important et de manière assez étonnante, comme j'ai dit tout à l'heure, le point de la réforme, c'est de changer la manière dont on va calculer l'indemnité chômage. C'est vraiment le point essentiel qui va changer complètement, je pense, la manière dont fonctionne aujourd'hui l'assurance chômage. Et ce qui est assez frappant, c'est que, comme c'est un peu compliqué, effectivement, on le voit, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sorti dans les médias.
Alors c'est compliqué parce qu'il y a différents paramètres. Il y a le durcissement des critères qui permettent d'entrer dans le système donc d'allocation au chômage. Il y a le niveau de salaire qu'on va percevoir en étant au chômage et la durée d'indemnisation.
Oui, oui.
Ce qui fait trois facteurs principaux. Il y en a d'autres aussi.
Mais le point important, c'est la manière dont on calcule le revenu que vous allez toucher à la fin du mois quand vous êtes chômeur. C'est ça qui est important finalement. C'est combien vous allez gagner chaque mois. D'accord ? Donc, comment on fait aujourd'hui et comment on va faire demain ? C'est ça. Et c'est ça que personne ne commente et c'est ça le point essentiel. Alors, comment on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous le dis, je travaille au SMIC en CDD, 15 jours par mois, d'accord ? Je vais gagner, comment je vais calculer mon revenu quand je vais m'inscrire au chômage ? On va calculer mon salaire journalier de référence, c'est-à-dire les jours où j'ai travaillé, combien j'ai gagné en moyenne ? Uniquement les jours où j'ai travaillé. On va multiplier ce salaire par 30. Enfin, on parle le nombre de jours dans le mois, par 30, disons. D'accord ? Et ça va me donner mon salaire de référence mensuel. Et puis, à partir de là, on va compter 75% du brut, donc disons 80% du net. D'accord ? Donc, je vais toucher 80% de quelqu'un qui travaille au SMIC à plein temps si j'ai travaillé 15 jours par mois pendant ma période d'éligibilité. Donc, c'est là qu'on voit que le revenu mensuel augmente. Et c'est ça, ce système complètement dysfonctionnel qu'ont mis en place les partenaires sociaux, qui fait que lorsque des personnes s'inscrivent au chômage, eh bien, elles peuvent avoir un revenu mensuel plus élevé que le revenu mensuel moyen qu'elles avaient quand elles travaillaient. Il y en a à peu près 20% qui sont dans ce cas-là quand ils rentrent au chômage. C'est pas une fake news, c'est un fait. Les données sont disponibles après les avoir demandées, parce qu'elles sont confidentielles, mais elles existent. On peut travailler dessus. Les chercheurs le font. Je l'ai fait. D'autres l'ont fait. Ces chiffres ne sont pas des fake news. Je le confirme.
Bon, je crois qu'on a égaré déjà beaucoup d'auditeurs.
Je vais vous dire quelle est la première étape, un peu technique. La prochaine étape, en fait, voilà, là, on va changer les modalités de calcul à partir du salaire mensuel de référence. Ce qui veut dire que deux chômeurs qui ont travaillé exactement la même durée pendant la période de référence, avec l'un, mettons que ce soit 6 contrats d'un mois, l'un des demandeurs d'emploi a travaillé 6 fois un mois du 1er au 30 du mois. Donc son salaire mensuel de référence, ce sera un SMIC à temps complet. Le deuxième demandeur d'emploi aura travaillé 6 fois un mois, mais du 15 du mois au 15 du mois suivant. Et donc, bah pour lui, il faudra diviser le salaire mensuel de référence par deux, hein, puisque voilà, absolument. Et vous allez vous en apercevoir, c'est la prochaine étape du gouvernement. le gouvernement va s'apercevoir que si on passe au salaire annuel de référence, on réduit encore les droits des demandeurs d'emploi. Et donc, la prochaine étape, ce sera de lisser ces différences entre deux demandeurs d'emploi qui ont exactement la même durée de travail et qui devraient avoir les mêmes droits, mais qui ne l'ont pas. Et donc, ce sera un nouvel alignement par le bas de l'assurance chômage. Voilà, on peut déjà prévoir l'étape d'après.
Alors, en tout cas,
il
y a aussi un point dans cette réforme pour essayer de complexifier un tableau qui est déjà relativement indigeste. C'est le fait que ce gouvernement, qui a souvent été accusé de privilégier plutôt les hauts revenus, a, pour le coup, dans cette réforme de l'allocation chômage, prévu de diminuer la rémunération de ceux qui perçoivent plus de 4 500 € bruts lorsqu'ils sont en emploi. Ils verront ceci, leur indemnisation réduite de 30% au bout du 7e mois, ce qui permet, dans une contrepartie de cette mesure Anedou, de maintenir plus longtemps l'allocation chômage de ceux qui étaient rémunérés à un niveau inférieur lorsqu'ils étaient en emploi.
Alors, on peut discuter du bien fondé de cette mesure, hein, du fait que la France a des plafonds d'indemnisation assez hauts. Ça se justifie parce que les cadres cotisent à un niveau plus élevé. Hein, donc, de ce point de vue-là, ils contribuent aussi au système. Je dirais que pour réaliser des économies, ça va pas être une mesure très performante, hein, parce que les cadres ont tendance à revenir assez rapidement à l'emploi. Et puis, plus le montant d'indemnisation est élevé et plus on a peu de personnes dans cette catégorie. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu une seule étude empirique qui a été faite en France sur la dégressivité des allocations chômage à l'époque de l'allocation unique dégressive. Hein, on a déjà en France une expérience de dégressivité des allocations chômage. Et cette étude avait montré qu'il n'y avait aucun effet sur le taux de retour à l'emploi global et que même il y avait plutôt pour les cadres un petit allongement des durées de chômage. Hein. Donc c'est intéressant de voir qu'on a une mesure qui, y compris du point de vue des principes qui la fondent, est mal calibrée.
Pierre Cahuc.
Oui, non, cette mesure sur la dégressivité, je pense que elle est pas très positive, elle est pas positive dans le sens où plus généralement ce problème des cadres, ça pose le problème de l'objectif de l'assurance chômage, puisque là ce qu'on s'aperçoit c'est que l'assurance chômage finalement redistribue énormément de ressources. Les personnes qui cotisent beaucoup, puisque c'est taux de la cotisation, c'est 4 fois le plafond de la sécurité sociale, donc c'est très élevé. En contrepartie, effectivement, ces personnes avaient jusqu'à présent, mais c'est encore le cas finalement, au moins pendant 7 mois, des revenus très élevés qui pouvaient atteindre pratiquement 7 000 € par mois lorsqu'ils étaient au chômage. C'était jusqu'à pendant 24 mois, maintenant ça va passer à 7 mois et ensuite ça va baisser, ça reste quand même assez généreux. Mais il est vrai qu'il y a un énorme transfert de ressources, des revenus élevés vers les revenus faibles. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement à quoi sert l'assurance chômage, sachant qu'il n'y a plus de cotisation salariée maintenant. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui repenser la manière dont on va organiser l'assurance chômage, aller vers un régime qui soit vraiment assurantiel, avec pour des cadres par exemple, peut-être des régimes optionnels, où les cadres pourraient adhérer à des organismes qui les assuraient. Donc là, c'est vrai que la dégressivité, l'assurance chômage pour les cadres, c'est une mesure purement budgétaire qui n'est pas forcément très opportune d'un point de vue d'efficacité.
Anedou, tout à l'heure, vous nous avez dit que finalement, les indemnisations au chômage, leur diminution, autrement dit, les mécanismes incitatifs qui peuvent être faits pour dire aux chômeurs, voilà, si vous ne retrouvez pas rapidement un emploi, eh bien, vous serez moins indemnisé. Vous avez dit que ça n'avait aucune incidence sur le retour à l'emploi. Quelles sont, selon vous, du coup, les causes du chômage français et de son niveau particulièrement élevé?
Les causes, on peut pas les attribuer au système de protection sociale. Hein. S'il y a des indemnités de chômage, s'il y a le RSA, c'est bien parce que il y a des personnes qui en ont besoin.
Alors vous les attribuez à quoi ?
Eh bien, l'insuffisance des créations d'emplois, c'est-à-dire que on est quand même dans un pays qui a mis en place à bas bruit au courant des années 80 des politiques d'austérité qui ont le joli nom de rigueur budgétaire, des politiques de modération salariale, alors que on est dans un pays et c'est d'ailleurs le cas de toute l'Europe où la croissance est tirée par les salaires. Hein. Je dirais aujourd'hui. Alors l'objectif, c'est pas la croissance pour la croissance, parce qu'on a quand même un problème de transition écologique à réaliser. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a des besoins et sociaux et environnementaux qui sont considérables. Et effectivement, on voit pas très bien comment on pourrait y répondre sans une impulsion très importante de l'État. En France, et puis je dirais même au niveau européen. Donc effectivement, pour créer des emplois, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, d'autant plus en France. Pourquoi est-ce qu'on a un tel problème de chômage en France? On est l'un des pays les plus dynamiques du point de vue démographique. Donc on a beaucoup de jeunes, on a du mal à les intégrer dans l'emploi, parce que précisément, on met pas en place de politique ambitieuse de création d'emplois.
Votre point de vue, Pierre Cahuc, par rapport à la vision qu'Anedou vient de développer?
La France a, comme on le sait, un déficit budgétaire assez important. Donc d'un point de vue de relance de la demande, on est quand même un pays assez vertueux, si je puis dire, si on voit les choses du point de vue d'Anedou, puisque des pays comme l'Allemagne, qui ont des taux de chômage à un peu plus de 3%, ne sont pas forcément des politiques qui jouent sur la demande. Cette idée selon laquelle des politiques de demande permettraient de faire baisser le chômage quand le chômage persiste depuis 40 ans, je pense qu'elle est difficilement soutenable. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des relations très claires entre la manière dont sont organisées les institutions du marché du travail, la formation des salaires, le système d'assurance chômage, l'ensemble de la réglementation des contrats de travail, l'ensemble de la manière dont fonctionnent les marchés des produits aussi, avec toutes les réglementations sur le marché des produits, qui donnent les possibilités de créer des emplois et qui finalement vont déterminer le niveau de l'emploi.
Pardonnez-moi, donc, Pierre Cahuc, c'est un peu flou parce que vous attribuez les causes du chômage au marché de l'emploi, ce qui est effectivement évident, mais plus précisément, quelles sont les causes selon vous? Quand vous dites les mécanismes institutionnels, ouais, formation des prix, des salaires, bon, ok, mais plus concrètement.
Concrètement, donc l'assurance chômage, je pense, effectivement, y participe. La formation des salaires en France, est articulée autour d'un salaire minimum qui génère des négociations collectives qui sont étendues de manière.
Le SMIC est trop élevé, quoi.
Le SMIC pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail et qui ont décroché, effectivement, est un problème d'accès à l'emploi pour ces jeunes-là. Donc, effectivement, pour ces jeunes, soit on trouve des dispositifs...
Le SMIC jeune, je crois que c'est une tentative qui a été faite.
Non, effectivement, c'est le SMIC
socialement, c'était...
Ça n'a pas été jugé. Je ferai remarquer que dans tous les pays autour de nous, sauf l'Allemagne, mais les Pays-Bas, le Royaume-Uni, ont des niveaux de salaire différents. Donc nous, on peut jouer sur des subventions, subventionner pour les jeunes l'emploi si on ne veut pas toucher au SMIC. Bon, sachant que... Il est clair qu'il y a un problème pour les jeunes.
Si vous subventionnez le salaire des jeunes, vous aurez un problème avec les vieux.
Pourquoi?
Parce que ça fera un effet pervers. On préférera embaucher des jeunes et les virer lorsqu'ils ne seront plus jeunes.
Non, parce que cette idée selon laquelle il y a un nombre d'emplois qui est donné, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on embauche des jeunes, ça génère de la demande. Et puis, une fois que la demande est générée, ça permet de garder les personnes plus âgées. Et puis, le point essentiel quand même, c'est la formation des salaires en France. Il faut avoir en tête que les salaires sont négociés par des grandes entreprises dans les branches et sont étendus à toutes les entreprises. 98% des salariés sont couverts par les conventions de branche, on a une structure de formation des salaires qui est extrêmement rigide et qui ne permet pas de réagir au niveau local à l'évolution de l'efficacité de tel ou tel secteur. Et ça, c'est un énorme barrière à l'emploi.
Anedou.
On a aussi là une pensée qui relève de la pensée magique, c'est-à-dire l'idée que on pourrait continuer avec une politique d'austérité, de rigueur salariale, enfin de gel des salaires, hein, qui est poliment appelé modération salariale, et puis en dérégulant le marché du travail, c'est-à-dire en mettant en place des règles ultralibérales, celles-là même qui ont encouragé le développement des contrats courts, c'est l'idée que tout ça permettra de créer des emplois, alors que les travaux de l'OCDE, qui pourtant défendent ce type de politique depuis le milieu des années 90, concluent depuis déjà longtemps qu'on n'arrive absolument pas à montrer que ces politiques de dérégulation de l'emploi permettent de créer des emplois. C'est-à-dire que, notamment en cas de crise, les pays qui avaient été érigés en modèle de ces politiques de flexibilité, l'Espagne par exemple, où 30% de l'emploi avant 2008 était temporaire, a vu son emploi s'effondrer complètement.
Nous n'avons pas la même lecture des travaux de l'OCDE. Il faudra peut-être faire venir des personnes de l'OCDE, comme Stéphane Carcillo par exemple, pour parler de ces sujets.
Qui est votre co-auteur? Pierre Cahuc, puisque vous avez publié avec lui « Améliorer l'assurance chômage » aux éditions des presses de Sciences Po. Merci à vous, donc, Pierre Cahuc. Et merci à vous, Anne Edou. Vous êtes maîtresse de conférence au CNAM et membre des économistes atterrés.